Alors, comment vous définiriez la joie? La joie, c'est quoi? Notre grande dame, mais Julia, la petite dame, si elle vous posait la question, mais qu'est-ce que c'est la joie? Et qu'est-ce que vous lui répondriez? C'est quoi la joie? Vous pouvez peut-être attraper votre dictionnaire et regarder comment c'est défini. Robert l'exprime ainsi. C'est une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Et le Larousse dit ceci. C'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou est en voie d'être satisfait. Alors, qu'est-ce que la chose qui vous rend particulièrement joyeux? Qu'est-ce que c'est qui vous rend joyeux? Il y a des choses qui nous rendent joyeux. Par exemple, si vous rentrez pour les hommes, s'ils rentrent, pour les femmes aussi, s'ils rentrent dans leur journée de travail, et voilà, ils voient leurs conjoints, leurs enfants, ah, ça leur donne de la joie de les retrouver enfin, après une journée de travail fatigante. Ou bien, je sais pas, ça peut être toute autre chose. Vous avez peut-être d'autres idées à me proposer. Et aujourd'hui, nous allons voir le psaume 16, où David nous parle de sa joie. Mais vous verrez que c'est pas une joie qui correspond à celle du dictionnaire. Puisque cette joie, elle est intense, elle est totale, elle est délicieuse et surtout elle est permanente. Permanente. Voilà de la joie dont veut nous parler la parole de Dieu ce matin par le psaume 16. Alors je vais en faire la lecture. J'ai même prévu d'en faire plusieurs lectures si on a le temps. On fera d'autres lectures parce que c'est un psaume qui a été traduit. La poésie de David n'est pas toujours facile à traduire. Apparemment, et elle est rendue de différentes manières. Mais voilà la version seconde. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans les pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles en cours après des dieux étrangers. Je ne réponds pas à leurs libations de sang et je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Si vous prenez la traduction du rabbinat français, le rabbinat français a traduit pour nous l'Ancien Testament en français, ce qui est traduit ici par hymne, ils ont choisi de ne pas le traduire. Ils ont donné le mot mictam. Et effectivement, vous trouverez que ce fameux Miktam est à la fois, pour certains, un poème, ou un hymne, ou une prière intime, ou un témoignage, un hommage. Je crois qu'on dit en anglais un tribute. Et je vais maintenant vous lire dans la traduction du rabbinat les versets. On va les parcourir ensemble et les commenter un peu. Le titre du message, c'est « La joie de David, du Seigneur est la nôtre ». Alors, on n'aura pas le temps de tout voir ce dimanche. On va se concentrer sur la joie de David. Et on verra la joie du Seigneur et notre joie, Dieu voulant, la semaine prochaine. Protège-moi, ô Dieu, car je m'abrite en toi. Voilà la façon dont David commence ce psaume. Protège-moi. David commence direct par une demande comme ça. Il formule une demande tout de suite. Mais qu'est-ce que serait l'inverse ? L'inverse, ce serait ne rien demander à Dieu, c'est-à-dire choisir de se débrouiller seul, d'avancer par ses propres forces. Mais non, protège-moi. Et pourquoi Dieu accepterait-il de garder David ? David dit, car je m'abrite en toi, je m'abrite en toi. Je me confie en toi, parfois c'est traduit. Et quand est-ce que c'est qu'on cherche un refuge ? On cherche un refuge ben, quand on est dans les intempéries, par exemple. Il y a des tempêtes qui ont soufflé et ces derniers temps, partout en France, et il ne faisait pas beau être dehors. Dans ces cas-là, les hommes ont besoin d'un abri, ont absolument besoin d'un abri. Mais c'est peut-être aussi la peur ou la bousculade ou tout ce qui est traumatisant pour nous. Ce qui est intéressant ici, c'est que David dit « Je m'abrite en toi ». Et c'est, on l'avait vu à une autre occasion, le sens des verbes dans l'hébreu est difficile à traduire en français, c'est quelque chose qui est définitif pour David. Définitivement, David s'est réfugié auprès de l'Éternel. Ce n'est pas circonstanciel. Ce n'est pas une démarche circonstancielle, c'est une démarche qui est définitive pour lui. David chante « Tu es mon maître », toujours dans la traduction du rabbinat. « Tu es mon maître, mon bonheur n'est pas en dehors de toi. » Tu es mon maître, mon bonheur n'est pas en dehors de toi. Alors voilà une belle déclaration d'amour, hein? Un profond attachement qui est exprimé ici par David. Mon bonheur n'est pas en dehors de toi. Et comment cela se décline concrètement, cet attachement à Dieu? Aux saints qui sont sur la terre, aux nobles de cœur vont toutes mes aspirations. Aux magnifiques, c'est magnifique l'Éternel, c'est ce même mot. Toute mon affection, tout mon attachement. On peut retenir à ce niveau du psaume que pour David, l'attachement au peuple de Dieu, l'attachement à Dieu est indissociable de l'attachement au peuple de Dieu. Les deux vont ensemble. Ce n'est pas un David n'était pas un mystique, quelqu'un qui est dans son monde, qui sait, voilà, on comprend pas trop ce qui se passe. Il semble des personnes des fois qui semblent avoir des expériences extraordinaires, mais non. David ici nous rattache et nous ramène à l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain, comme l'a enseigné Jésus. Verset 4. Ceux qui multiplient leurs peines courent après d'autres biens. Ceux qui multiplient leurs peines courent après d'autres biens. Chercher refuge ailleurs qu'à l'Éternel, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ça vous peut vous paraître surprenant, mais c'est ainsi qu'on peut définir l'idolâtrie, se tourner vers quelque chose d'autre que Dieu pour recevoir la protection, pour recevoir l'abri, pour trouver sa joie, son plaisir. Et David cherchait son plaisir en dehors de l'Éternel est une source de douleur. C'est ainsi qu'il voit les choses. Pour lui, c'est une source de douleur que de rechercher autre chose que le Seigneur. Alors, est-ce qu'ainsi que nous voyons la chose, une source de douleur, que de se tourner vers quelque chose qui n'est pas Dieu? Je dois dire que je ne le perçois pas toujours comme ça. Mais on ne renoncera pas à l'idolâtrie, c'est-à-dire on ne cherchera pas son bonheur ailleurs qu'en Dieu, tant qu'on ne réalisera pas que c'est un grand mal que de le chercher ailleurs. Ceux qui multiplient leur peine courent après d'autres biens. Et il ajoute, « Je ne prendrai aucune part à leur libation mêlée de sang, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. » Le culte des idoles, vous savez, du donnant-donnant. On apporte quelque chose à l'idole dans l'espérance qu'elle nous rendra la protection. À ce moment-là, on faisait des sacrifices d'animaux. On donnait des biens, on donnait de la nourriture à une idole faite de bois, de pierre ou de toute autre chose, avec l'espoir qu'en retour, elle nous donnera ce dont nous avons besoin, en retour. Elle va nous protéger, elle va nous garder. On va trouver en elle le refuge dont on a besoin. Chercher son bonheur ailleurs qu'à l'Éternel n'est pas gratuit, bien sûr. Il y a un prix à payer. Il y a du temps, il y a de l'argent à investir dans une idole. On lui consacre beaucoup de temps, on lui consacre beaucoup d'énergie, on lui consacre beaucoup d'argent. Mais le culte idolâtre est attirant. Et qu'est-ce que c'est qui est attirant? Il me semble que c'est, dans le contexte de David et dans bien des contextes, c'est la communion avec nos semblables. On a besoin de vie sociable. On avait vu dans l'Épître aux Corinthiens combien c'était quelque chose que un culte idolâtre où on faisait une grande fête, voilà, on offrait sacrifice un animal, le repas était partagé auprès de tout le monde et il y avait des boissons et il y avait tout ce qu'il faut pour se réjouir et se tenir à l'écart de tout ça. Bah, c'est se priver d'un moment de communion. Le culte idolâtre est attirant. On a besoin de vie sociale. Et vivre en contre-culture est difficile. Cela peut revenir bien souvent à se retrouver seul. À se retrouver seul. Et c'est un petit peu dans cet état d'esprit que David poursuit et il chante « L'Éternel pourvoit à tous mes besoins ». Verset 5 « L'Éternel est la portion de mon sort ». Il s'agit ici de la part qui était attribuée quand on avait un repas. Eh bien, vous allez à un repas, on vous sert et puis vous avez une part du repas. Et David dit « L'Éternel, c'est ma part ». C'est ma part. Alors, David refuse une part de viande sacrifiée aux idoles, car il est réfugié en Dieu, et il reçoit la part de son Dieu. Et c'est assez incompréhensible, parce que quand on lit le texte, cette part qu'il reçoit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qu'il reçoit. C'est quelque chose qui est incompréhensible. On sait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. mais là, David semble aller beaucoup, beaucoup plus loin encore. Et on verra que, en Jésus-Christ, tout le sens que cela va prendre pour nous. Mais restons encore en compagnie de David. L'Éternel est mon calice. Dans les repas de fête, il y avait des vins raffinés qui étaient servis dans de magnifiques coupes pour les invités. C'était quelque chose qui était certainement très agréable. Le vin, c'est la source de joie pour les hommes par excellence. Est-ce que vous avez déjà organisé une réception, un apéritif sans alcool? Des fois, j'ai fait ça dans mon travail pour faire des pots de départ. C'était pas la même chose. C'était pas la même ambiance. Les boissons alcoolisées, ça contribue à mettre une bonne ambiance, à donner de la joie. Et s'abstenir d'un culte idolâtre, c'est aussi s'abstenir de moments très conviviaux, très joyeux autour d'un verre. Mais David connaît une coupe bien meilleure, réfugiée en son Dieu. La coupe qu'il reçoit, il la reçoit du Dieu de l'univers lui-même. L'Éternel est ma coupe. C'est quelque chose d'incompréhensible là aussi. Il poursuit, « C'est toi, Seigneur, qui consolide mon lot. » Après la conquête de Canaan, les Israélites, avec chaque tribu, avaient eu une portion de territoire tirée au sort. Et puis, dans chaque territoire tiré au sort, on peut imaginer aussi, chaque famille recevait une partie du territoire, une partie du terrain. Chaque homme, chaque femme, ici-bas, a reçu quelque chose de Dieu, quelque chose qui est unique, qui est à lui, une personnalité, quelque chose qui est spécifique, qui l'est qu'à lui-même. Et facile de cela faire détériorer, de avoir une mauvaise image de soi, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est très facile et cela rend très malheureux. Mais David, réfugié en son Dieu, sait que son lot, c'est Dieu qui le protège lui-même et il n'est pas inquiet. David chante, l'Éternel donne un héritage, au verset 6. Un héritage m'est échu en des lieux de délices. Un héritage m'est échu, mais donné dans des lieux de délices. Et en effet, l'héritage de Dieu ne peut être que divin. Que divin. Le petit dernier de la famille, David, il parle ici d'un autre héritage que celui qu'il pouvait recevoir d'Isaïe, son père, partagé entre tous les frères. Il parle de l'héritage de Dieu. Et il ajoute, oui, mon patrimoine me plaît tout à fait. Dans tous les cas, David nous apprend à apprécier ce que Dieu nous donne. On a chanté tout à l'heure. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Il nous apprend à nous contenter en Dieu, que Dieu, ce qu'il nous donne, soit nous contenter en Dieu comme source de joie. Alors, quel est ce lot que nous avons reçu de Dieu? Est-ce qu'il nous émerveille encore ou est-ce que nous en sommes blasés? Est-ce que nous l'apprécions à sa juste valeur? Est-ce que cela nous donne de la joie? Ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a confié. David chante, l'Éternel me donne un héritage. David chante, tu es mon maître. Ah, ça, j'ai déjà fait. David chante, l'Éternel est avec moi. Au verset 7. Je bénis l'Éternel qui a été mon guide. Le roi David avait un conseiller de choix. Vous savez, les rois s'entourent de beaucoup de conseillers. Et jusqu'à présent, tous les présidents et les hommes de pouvoir ont des spécialistes de toutes sortes pour les aider à faire les choix. Et Dieu dit qu'il a un conseiller qui est Dieu lui-même. C'est là aussi le temps, et dans l'hébreu le parfait, quelque chose qui est accompli, quelque chose qui est durable, qui est définitif, qui est acquis. L'Éternel est avec moi, il est mon guide. Même de nuit, mon cœur m'en avertit. La vie n'est pas toujours rose. On a chanté ce chant, béni soit le nom du Seigneur, dans les jours bons et dans les jours moins bons. Et David sait que l'Éternel est là, auprès, là, il s'est réfugié en lui, l'Éternel est là, il a l'expérience de Dieu, et à cause de ce moment-là, il puise à l'intérieur de lui-même la force nécessaire, les ressources pour avancer et pour ne pas tomber dans la dépression quand les choses ne vont pas. Il s'agit du cœur, il s'agit des reins ici, dans l'hébreu, la force intérieure la plus profonde que nous pouvons avoir. On a chanté comment on faisait le chant. Mon cœur choisit de dire, je bénirai l'Éternel. Mon cœur choisit de dire, je bénirai l'Éternel. C'est de ça qu'il s'agit, dans la nuit, dans les difficultés, lorsque les épreuves sont là. David puisait en lui-même, dans ce qu'il savait de Dieu, les forces dont il avait besoin. L'Éternel est avec moi. Et David chante, l'Éternel est mon secours, au verset 8. Je fixe constamment mes regards sur le Seigneur. David ne lâche pas le Seigneur des yeux. Hein? C'est pas que Dieu pouvait s'en aller. La personne qui pouvait s'en aller, c'était lui qui pouvait s'éloigner de Dieu et le perdre du regard. Et bien sûr, vous avez compris qu'il ne s'agit pas des yeux, il ne voyait pas l'Éternel face à face, mais c'était son cœur qu'il fixait sur lui. Comment on peut concrètement comprendre cela? Il vous est peut-être arrivé à être assailli par une tentation, par exemple, et là, vous sentez que vos repères s'effondrent, vous sentez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais céder à la tentation. Et c'est à ce moment-là qu'il faut fixer les regards vers le Seigneur. Comment faire cela? Penser. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Qui il est? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelles ont été ses paroles? Quelles ont été sa vie? Pensez à l'Évangile à ce moment-là. Et c'est une façon concrète que de tourner nos regards, de regarder le Seigneur pour trouver le secours, orienter tout notre être vers lui. Et cela peut demander un effort de volonté. Cela peut nous demander d'aller puiser à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, cette énergie pour dire non, Jésus, et se rappeler de qui il est. S'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Du temps de David, lorsqu'il y avait une accusation, le défenseur se mettait toujours à la droite de la personne, comme on dit l'avocat aujourd'hui, qui est là pour défendre celui qui est accusé. S'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et le problème n'était pas que l'Éternel puisse partir, mais c'était lui, que lui puisse s'éloigner de sa présence, perdre le Seigneur des yeux. L'Éternel est mon secours. David chante, je suis 100% heureux. Verset 9, de tout cela, il dit, c'est pourquoi mon cœur se réjouit, mon âme jubile, mon cœur même repose en sécurité, mon âme jubile. Tout ce qui est immatériel dans David est dans la joie. Hein. Et il parle même de son corps. Mon corps même repose en sécurité. Là, c'est le temps imparfait, c'est quelque chose qui est inachevé. Qu'est-ce que ça veut pouvoir dire ici, quand David dit « mon corps repose en sécurité » alors que son âme et son cœur se réjouissent en Dieu. Voyons voir la suite. David chante « la tombe n'est pas la fin ». Verset 10, tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, au séjour des morts. Tu ne laisseras pas tes fidèles voir l'abîme. David annonce sa résurrection. Dieu, son refuge, est plus grand même que la mort. Alors bien sûr, on pourra faire remarquer que David est mort. Son tombeau est quelque part. Il est certain que son corps a disparu, qu'il s'est décomposé alors. Et moi-même, je parle de David au passé. Est-ce que son espoir a-t-il été trompé? Est-ce que sa joie était pas bien fondée? La suite, au verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude des joies que l'on goûte en ta présence. Non, David a de l'espérance au-delà du tombeau. D'une joie plus profonde et plus intense encore qu'il connaîtra quand il sera dans la présence de son Seigneur, physiquement avec son corps. Ce jour-là, ses yeux verront son Dieu. Il sera dans la présence de Dieu pour de vrai. Il ne sera plus comme un réfugié. Tu me feras connaître les délices éternelles dont on se délecte. Satan veut nous faire croire que le paradis de Dieu est ennuyeux. C'est un mensonge. Le paradis de Dieu n'est pas ennuyeux. Regardons ce que nous en dit le psaume 16 ici. Des délices éternelles. Une joie éternelle qui ne s'arrête pas. Comment illustrer ça? Je ne sais pas. Peut-être si vous êtes un amateur des bons plats, vous allez au restaurant et là on vous sert un bon plat qui est délicieux et vous allez le déguster, mais ça va durer que quelques minutes et après c'est fini, vous en avez le souvenir. Mais là il est question de quelque chose qui dure tout le temps, qui ne s'arrête jamais. Vous avez peut-être l'expérience de moments de joie tellement fort que vous avez vécu en famille ou avec des amis. C'était si bien d'être ensemble, c'était si doux. Mais il a fallu qu'on se sépare au bout d'un moment. Et là, projetez-vous dans quelque chose qui ne se termine jamais, quelque chose qui est délicieux, de façon permanente, constante. C'est ici la promesse du psaume 16. Une joie intense, délicieuse, permanente, qui est réservée à ceux qui se sont réfugiés dans le Seigneur, dans l'Éternel. Une promesse pour le psaume 16, pour nous, mais aussi un défi. Des défis à prendre comme David une parfaite confiance en Dieu. Renoncer sans relâche à ce mal qu'est l'idolâtrie. Chercher notre bonheur et notre joie en dehors du Seigneur. Renoncer à chercher notre joie ailleurs qu'en Dieu. Apprécier ce que Dieu nous a donné, apprendre le contentement dans le Seigneur. Tenir ferme dans les moments difficiles, parce qu'il y en aura. Et garder la foi, la mort n'aura pas le dernier mot. Alors on va refaire une lecture du psaume 16 pour terminer. Je vais changer de version. Vous pouvez fermer les yeux et simplement écouter. Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur, ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent notre Dieu souffriront de plus en plus. Faire des offrandes de sang au faux Dieu? Jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille, même la nuit ma conscience me parle, sans cesse. Je me souviens du Seigneur, puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie. Mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts. Tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. La Bible du Sommeur. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu as fixé des limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte dans l'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie, en ta présence, délice éternel auprès de toi. Seigneur, oui, merci pour David qui nous fait part de sa joie, qui nous la montre de loin. Seigneur, comment on peut soupirer nous aussi à cette joie intense. Merci Seigneur pour le chemin qu'il a trouvé, se confier en toi et en toi seul. Merci pour la façon dont tu prends soin de ceux qui se confient en toi pour tous leurs besoins. Ils te reçoivent toi-même. Merci Seigneur de nous aider à faire des progrès dans le contentement, dans la fidélité, dans la foi, dans à supporter les épreuves avec courage, sachant que tu es là, que tu ne nous abandonnes pas, que tu es tout à notre côté pour nous défendre. Merci Seigneur de bénir chacun d'entre nous, d'accorder ta pleine bénédiction, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen.